Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal, suivi de commentaires à l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie. Maintenant, je vais présenter le journal. Les titres pour aujourd'hui sont le rapport annuel sur la coopération de développement entre l'Union européenne et l'ASEAN a été lancé. Indonésie-Philippines augmente le commerce des algues. L'Indonésie ne décide pas encore de rejoindre ou non dans le partenariat transpacifique. L'ambassadeur Indonésie apprécie le sérieux de Venezuela de préparer le 17e sommet du mouvement des pays non alignés. Le gouvernement revendique l'amnistie fiscale pénètre 500 trillions roupias. Le colloque international IORA donne l'attention aux trois questions stratégiques. Et voici le journal complet. L'Union européenne a lancé la première édition du livre bleu de l'Union européenne et l'ASEAN. Le livre donne la description sur le développement de la coopération de l'ASEAN-Union européenne et les pays membres. À l'événement de lancement qui a eu lieu à Jakarta le 14 septembre 2016, l'ambassadeur de l'Union européenne à l'ASEAN, Francisco Fontan, a transmis symboliquement le livre bleu de l'UE et l'ASEAN au secrétaire général de l'ASEAN, le Luong Min. Francisco Fontan a déclaré que l'Union européenne et l'ASEAN sont les principales régions intégrées dans le monde. L'UE a engagé à intensifier la coopération et à ajouter les fonds de la coopération de développement. En augmentant la coopération entre l'ASEAN et l'Union européenne, les relations entre les deux régions resserreront. Les deux régions voulaient atteindre la même croissance pour les personnes, la paix et la sécurité économique. Nous sommes arrivés au niveau des relations intégrées plus avancées dans le monde. Je ne suis pas surprenant que notre coopération s'est développée pendant des années. L'ambassadeur Francisco Fontan a déclaré que l'Union européenne et l'ASEAN ont les relations du commerce et de l'investissement exceptionnelles. Dans l'avenir, l'Union européenne et l'ASEAN intensifieront la coopération du développement. Les gouvernements d'Indonésie et de Philippines vont établir un nombre de coopérations commerciales, y compris le renforcement du commerce des algues. Le ministre du Commerce, Enggartiasto Lukita, a dit le jeudi à Jakarta que les deux pays ont en fait effectué beaucoup de coopérations. Les Philippines nécessitent beaucoup de matières premières des algues. Ce pays va les obtenir de l'Indonésie. Cependant, l'Indonésie va exporter les algues aux Philippines si l'industrie nationale a également été remplie, parce que le marché intérieur actuel exige également une bonne quantité d'algues. En plus d'algues, l'Indonésie va également travailler ensemble dans le commerce du charbon aux Philippines. Le gouvernement indonésien continue de mener une étude à participer à la coopération commerciale du partenariat transpacifique. Le ministre du Commerce, Enggartia Stolokita, a déclaré jeudi à Jakarta, en plus de mener l'étude sur les avantages de la coopération, le gouvernement attend également toutes les questions, y compris les conditions politiques aux États-Unis. Il a expliqué qu'avec toutes les possibilités politiques dans un certain nombre de pays, y compris les États-Unis, le gouvernement indonésien n'a pas encore été disposé à prendre une décision directe pour participer ou non dans le partenariat transpacifique, parce que la participation d'un pays affectera le succès de la coopération commerciale. L'ambassadeur de la République d'Indonésie au Venezuela, Muhammad Lutfi Witung, apprécie le travail dur et le sérieux du gouvernement vénézuélien dans la préparation pour la mise en œuvre du 17e sommet du mouvement des pays non alignés à l'île de Margarita, Caracas. L'ambassadeur de l'Indonésie au Venezuela, Muhammad Lutfi Witung, a déclaré jeudi à l'île de Margarita que le 17e sommet du mouvement des pays non alignés a lieu du 15 au 18 septembre. Le vice-président Yusuf Kalla assiste à la conférence présentant le gouvernement indonésien. Muhammad Lutfi a expliqué qu'en général, la situation de la sécurité de Venezuela était relativement sûre, bien que le taux de criminalité augmente depuis que la crise économique a frappé ce pays. La crise économique s'est passée à cause de la baisse des prix du carburant. Lutfi a expliqué que la sélection de l'île de Margarita comme place de la mise en œuvre du sommet du mouvement des pays non alignés signifie que la sécurité peut être contrôlée. Le secrétaire du cabinet Pramono Anung est optimiste que le programme de l'amnistie fiscale est mis en œuvre avec succès. Selon les dernières données du directorat général des impôts, le montant de l'argent des contribuables qui a été déclaré et rapatrié atteint 483 trillions roupias. Quand Pramono Anung socialise l'amnistie fiscale au secrétariat d'État le jeudi, il a déclaré le chiffre atteint 19,4 trillions roupias. Mais le nombre total aujourd'hui est estimé plus que cela, car le processus de déclaration et de rapatriement à partir de la liste jusqu'à ce que la vérification prend 3 jours. Les chiffres qui ont été comptabilisés comme recettes de l'État et la rançon, résultat de la déclaration et le rapatriement. Il croit également que le chiffre augmente chaque jour. Un certain nombre d'acteurs d'affaires interrogés ont déclaré leur désir de participer au programme. Le vice-ministre des Affaires étrangères, A.M. Fahir, a dit que 3 questions stratégiques de la coopération économique socio-culturelle et la stabilité de la paix dans l'océan Indien ont été discutées dans le colloque pour commémorer les 20 ans de l'organisation régionale Indian Ocean Rim Association, IORA, qui a eu lieu du 14 au 15 septembre. Il a été dit à M. Fahir à l'ouverture du colloque à Yogyakarta mercredi. Il souhaite que les 3 questions puissent être recommandées dans la préparation de IORA Concord au sommet IORA en Indonésie en mars 2017. Le colloque est un forum d'échange d'idées concernant la réflexion des activités d'IORA durant les 20 dernières années. La cartographie des défis auxquels sont confrontés, les leçons de développement d'IORA et de formuler des stratégies pour renforcer l'avenir de l'organisation. Le colloque présente les conférenciers du gouvernement, des universitaires de certains États, membres de et les partenaires de dialogue d'IORA, entre autres l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Inde, l'Indonésie, l'Iran, les États-Unis et en Allemagne. Chers amis, c'était le bulletin d'information.
Chers amis de l'antenne, pour la vidéo suivante, voici donc le commentaire et pour le titre, les États-Unis vont accorder l'aide militaire. Les États-Unis fourniront immédiatement une aide militaire d'environ 3,8 milliards de dollars à Israël. L'approvisionnement de l'aide militaire qui est en accord entre le président Barack Obama et le premier ministre Netanyahu est le plus grand dans l'histoire de la coopération des États-Unis avec Israël. Actuellement, l'aide militaire américaine à Israël est 3,1 milliards de dollars par an. Le montant de l'aide militaire était le résultat de négociations qui a duré pendant 10 mois. Après, précédemment, les relations entre les États-Unis et Israël ne sont pas bonnes à cause de la déclaration de Netanyahu qui a dénoncé la politique d'Obama envers l'Iran. Bien que ce pays fournisse le plus grand aide dans l'histoire des États-Unis, Washington a demandé des concessions à Israël. Washington a demandé à Israël de s'abstenir, de ne pas faire de développement rapide dans la région palestinienne occupée par Israël. Le mois dernier, les États-Unis ont condamné l'Israël qui l'ont noté de construire rapidement des colonies dans le territoire occupé en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. La Maison-Blanche exige également que la distribution de toute aide militaire doit passer l'industrie de la défense des États-Unis et non pas les propres entrepreneurs militaires d'Israël. En outre, l'Israël ne doit pas également demander des fonds supplémentaires au Congrès au-delà de ce qui serait inclus dans ce nouveau plan. Ce qui a été convenu par les États-Unis et l'Israël peut être vu des deux côtés. La première est à travers de cet accord. Les États-Unis essaient de tenir l'Israël de ne pas effectuer une expansion massive dans les territoires occupés et de pourparler avec les Palestiniens. Le deuxième peut devenir plus tard le déclenchement de nouveaux efforts israéliens pour attaquer la Palestine. Parce qu'avec l'aide qui sera donnée au cours des 10 prochaines années, l'Israël se sent plus d'obtenir le soutien des États-Unis et a pu développer sa défense militaire et presser la Palestine. La mise en œuvre des accords et des concessions qui sont imposées peut aussi dépendre de qui sera élu président pour 4 prochaines années, remplaçant Barack Obama. Chers auditeurs, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons avec le 16 septembre 1963, l'Alliance Tanah Melayu ainsi que Singapour, Bornéo du Nord et Sarawak ont formé une alliance appelée la Malaisie. L'accord d'établir l'Alliance de la Malaisie était signé par les représentants de la Grande-Bretagne à partir de juillet 1963. On a accordé de déclarer la Malaisie le 31 août 1963, mais le projet de déclaration à cette date a été reporté jusqu'à 14 septembre 1963. Enfin, la Malaisie a été déclarée le 16 septembre 1963. La cérémonie de déclaration de la Malaisie a eu lieu au Stade Merdeka à Kuala Lumpur et la cérémonie festive a été suivie par Yang Dipertuan Agong, les rois malais, le gouverneur de l'île Pinang, Malacca, Singapour, Sarawak et Sabah. Cette cérémonie était aussi assistée par les membres du cabinet, des diplomates étrangers à Kuala Lumpur, ainsi que des invités spéciaux. La cérémonie a été suivie par 30 000 personnes de la Malaisie, une lecture par Tunku Abdul Rahman Putra est fermé par la prière par Mufti Negeri Sembilan, Tuan Haji Ahmad bin Muhammad Said. Ensuite, le 16 septembre 1975, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est libérée de l'Australie. Au début, la Papouasie-Nouvelle-Guinée se compose de deux parties. Tout d'abord, Irian Nord-Est avec Salamaua comme capitale. Deuxièmement, la Papouasie avec la capitale Port Moresby. Puis en 1945, la zone a été unie administrativement, mais chaque position n'a pas changé. Papouasie a obtenu son indépendance le 16 septembre 1975 auprès du gouvernement australien, puis nommé Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec la capitale de Port Moresby. Le pays qui a colonisé une fois la Papouasie-Nouvelle-Guinée est la Grande-Bretagne. Puis en 1906, la Grande-Bretagne a remis la Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'Australie, jusqu'à ce que le moment de l'octroi de l'indépendance en 1975. Le premier ministre était Michael Somare. Nous terminons avec la signature du protocole Montréal le 16 septembre 1987, étant commémoré comme le jour international d'ozone. Le protocole Montréal est un protocole ou un traité international visant à protéger la couche d'ozone en réduisant ou interdisant les industries qui produisent des matières qui sont censées d'être responsables de l'appauvrissement de la couche d'ozone. Le protocole Montréal est un suivi de la Convention de Vienne en Autriche. En 1985, la première réunion internationale pour discuter de l'appauvrissement de la couche d'ozone. Bien que le protocole Montréal soit signé le 16 septembre 1987, mais ce nouveau protocole était en vigueur le 1er janvier 1989, suivi de la première réunion à Helsinki en mai 1989. Depuis la réunion à Helsinki, le protocole Montréal a subi 7 révisions, à savoir en 1990 à Londres, Angleterre, en 1991 à Nairobi, en 1992 à Copenhague, en 1993 à Bangkok, en 1995 à Vienne, en 1997 à Montréal, et en 1999 à Beijing. On croit que si un accord international est mis en œuvre, la couche d'ozone devrait se dresser en 2050. Cela est dû à l'adoption large et la mise en œuvre a été saluée comme un exemple remarquable de coopération internationale par Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers fidèles auditeurs, auditrices, bonsoir. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter la mise au point et pour le titre, le détenu avec probation peut participer à l'élection régionale. Sur la base des résultats de l'audition entre le ministère de l'Intérieur, l'organisateur de l'élection et le Parlement, il a été décidé qu'une personne qui est déclarée comme un détenu avec probation pour encore suivre les élections locales simultanées en 2017. Dans le même temps, le commissaire de la Commission de l'élection générale, KPU, Hadar Nafis Gumai, comme publié Berita Satu à Jakarta le dimanche 11 septembre, a dit que la décision est contraignante pour KPU. Par conséquent, KPU doit effectuer la décision de l'audience et la verser dans le changement du règlement de KPU, bien que la commission ait le point de vue différent. Selon lui, la nomination du prisonnier avec probation par un parti politique ne viole pas la loi. Parce que le règlement ne le mentionne pas, il mentionne seulement un ancien détenu de crimes sexuels contre les enfants et les trafiquants de drogue ne sont pas autorisés à se présenter aux élections locales. L'agent coordinateur du réseau de l'éducation des électeurs pour le peuple, Mashkuruddin Hafiz, comme cité par le journal Sindo, a affirmé que permettre le détenu avec les peintes légères de participer à l'élection locale est une préoccupation qui a déjà été soupçonnée. Cet accord éloigne plus l'intérêt du public sur des élections locales qui sont remplies par les candidats avec l'intégrité. Selon lui, l'inclusion de la cause d'un prisonnier avec probation dans la nomination à l'élection locale confirme plus l'intérêt de nombreuses factions qui insistent pour que les candidats se présentent à travers le parti politique. Mashkuruddin a rappelé, le public ne reste pas silencieux, ils peuvent donner un jugement sur les candidats de ne pas choisir. Pendant ce temps, un chercheur de Poll Tracking Indonesia, Agus Baskoro, estime que la décision de l'audition est un pas en arrière dans la démocratie. La décision est considérée également le refus des partis politiques contre l'esprit de donner naissance à un gouvernement et les dirigeants qui sont propres. Pendant ce temps, le chef intérimaire du Bureau des relations publiques de la Commission d'éradication de la corruption, KPK, Yuyu Adekiati, a déclaré « KPK a critiqué le Parlement qui donne la possibilité aux prisonniers avec probation de se présenter dans les élections locales, surtout pour les personnes reconnues coupables de cas de corruption ». La commission a regretté si le corrupteur est donné encore la possibilité de devenir la tête de région. Par conséquent, la commission est déterminée à continuer la campagne de prévention de la corruption en sensibilisant les gens à choisir des dirigeants qui sont propres de la corruption. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir.
L'Union européenne a lancé la première édition du livre bleu de l'Union européenne et l'ASEAN. Le livre donne la description sur le développement de la coopération de l'ASEAN-Union européenne et les pays membres. À l'événement de lancement qui a eu lieu à Jakarta le 14 septembre 2016, l'ambassadeur de l'Union européenne à l'ASEAN, Francisco Fontan, a transmis symboliquement le livre bleu de l'UE et l'ASEAN au secrétaire général de l'ASEAN, le Luong Min. Francisco Fontan a déclaré que l'Union européenne et l'ASEAN sont les principales régions intégrées dans le monde. L'UE a engagé à intensifier la coopération et à ajouter les fonds de la coopération de développement. En augmentant la coopération entre l'ASEAN et l'Union européenne, les relations entre les deux régions resserreront.
Both regions wish to achieve the same goals for our people, peace.
Les deux régions voulaient atteindre la même croissance pour les personnes, la paix et la sécurité économique. Nous sommes arrivés au niveau des relations intégrées plus avancées dans le monde. Je ne suis pas surprenant que notre coopération s'est développée pendant des années. L'ambassadeur Francisco Fontan a déclaré que l'Union européenne et l'ASEAN ont les relations du commerce et de l'investissement exceptionnelles. Dans l'avenir, l'Union européenne et l'ASEAN intensifieront la coopération du développement. Les gouvernements d'Indonésie et de Philippines vont établir un nombre de coopérations commerciales, y compris le renforcement du commerce des arcs. Le ministre du Commerce, Engartia Stolokita, a dit le jeudi à Jakarta que les deux pays ont en fait effectué beaucoup de coopération. Les Philippines nécessitent beaucoup de matières premières, des orques. Ce pays va les obtenir de l'Indonésie. Cependant, l'Indonésie va exporter les orques aux Philippines si l'industrie nationale a également été remplie, parce que le marché intérieur actuel exige également une bonne quantité d'orques. En plus d'orques, l'Indonésie va également travailler ensemble dans le commerce du charbon aux Philippines. Le gouvernement indonésien continue de mener une étude à participer à la coopération commerciale du partenariat transpacifique. Le ministre du Commerce, Engartia Stolokita, a déclaré jeudi à Jakarta, en plus de mener l'étude sur les avantages de la coopération, le gouvernement attend également toutes les questions, y compris les conditions politiques aux États-Unis. Il a expliqué qu'avec toutes les possibilités politiques dans un certain nombre de pays, y compris les États-Unis, le gouvernement indonésien n'a pas encore été disposé à prendre une décision directe pour participer ou non dans le partenariat transpacifique, parce que la participation d'un pays affectera le succès de la coopération commerciale. L'ambassadeur de la République d'Indonésie au Venezuela, Muhammad Lutfi Witung, apprécie le travail dur et le sérieux du gouvernement vénézuélien dans la préparation pour la mise en œuvre du 17e sommet du mouvement des pays non alignés à l'île de Margarita, Caracas. L'ambassadeur de l'Indonésie au Venezuela, Muhammad Lutfi Witung, a déclaré jeudi à l'île de Margarita que le 17e sommet du mouvement des pays non alignés a lieu du 15 au 18 septembre. Le vice-président Yusuf Kalla assiste à la conférence présentant le gouvernement indonésien. Muhammad Lutfi a expliqué qu'en général, la situation de la sécurité de Venezuela était relativement sûre, bien que le taux de criminalité augmente depuis que la crise économique a frappé ce pays. La crise économique s'est passée à cause de la baisse des prix du carburant. Lutfi a expliqué que la sélection de l'île de Margarita comme place de la mise en œuvre du sommet du mouvement des pays non alignés signifie que la sécurité peut être contrôlée. Le secrétaire du cabinet Pramono Anung est optimiste que le programme de l'amnistie fiscale est mis en œuvre avec succès. Selon les dernières données du directorat général des impôts, le montant de l'argent des contribuables qui a été déclaré et rapatrié atteint 483 trillions rupiah. Quand Pramono Anung socialise l'amnistie fiscale au secrétariat d'État le jeudi, il a déclaré le chiffre atteint 19,4 trillions rupiah. Mais le nombre total aujourd'hui est estimé plus que cela, car le processus de déclaration et de rapatriement à partir de la liste jusqu'à ce que la vérification prend 3 jours. Les chiffres qui ont été comptabilisés comme recettes de l'État et la rançon, résultat de la déclaration et le rapatriement. Il croit également que le chiffre augmente chaque jour. Un certain nombre d'acteurs d'affaires interrogés ont déclaré leur désir de participer au programme. Le vice-ministre des Affaires étrangères, A.M. Fahir, a dit que 3 questions stratégiques de la coopération économique socio-culturelle et la stabilité de la paix dans l'océan Indien ont été discutées dans le colloque pour commémorer les 20 ans de l'organisation régionale Indian Ocean Rim Association, IORA, qui a eu lieu du 14 au 15 septembre. Il a été dit à M. Fahir, à l'ouverture du colloque à Yogyakarta mercredi. Il souhaite que les trois questions puissent être recommandées dans la préparation de Iora Concorde au sommet Iora en Indonésie en mars 2017. Le colloque est un forum d'échange d'idées concernant la réflexion des activités d'Iora durant les 20 dernières années, la cartographie des défis auxquels sont confrontés, les leçons de développement d'Iora et de formuler des stratégies pour renforcer l'avenir de l'organisation. Le colloque présente les conférenciers du gouvernement, des universitaires de certains États, membres de et les partenaires de dialogue d'Iora, entre autres l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Inde, l'Indonésie, l'Iran, les États-Unis et en Allemagne. Chers amis, c'était le bulletin d'information.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditrices et chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie. Pour l'heure suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous. Nous nous rencontrons à nouveau dans la rubrique du magazine culturel. Aujourd'hui, nous allons vous prendre voyager dans la province Bangka Belitung. Alors, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia, la Voix d'Indonésie. Batu Belubang, en français la pierre Belubang, est le nom d'un village situé dans le district Pangkalan Baru, la région Bangka Central, la province des îles Bangka Belitung. Ce village est connu comme l'un des centres de production de poisson frais aux îles Bangka Belitung. En plus d'un grand potentiel de pêche, le village Batu Belubang a aussi un grand potentiel pour le tourisme maritime. L'un d'entre eux est la plage Tapak Antu. Cette plage a de sable blanc, les rochers propres et la mer bleue. La plage Tapak Antu n'est pas loin de la ville Pangkal Pinang, capitale provinciale de Bangka Belitung, à environ 15 km. Elle peut être atteinte pendant 25 minutes en transport terrestre. Son emplacement est conclu, passant à travers le canton. Malgré cela, ce n'est pas difficile de trouver cette plage car il y a un certain panneau. Pour entrer à la plage, l'entrée est gratuite. Vous devez seulement payer le parking. Pour les voitures, 5000 rupiah et pour les motos, 3000 rupiah. Comme les plages à Bangka en général, la plage Tapak Antu présente un beau panorama. La plage de sable blanc avec la mer bleue et les vagues calmes est remplie de grosses pierres blanches typiques de l'île Bangka. Le nom Tapak Antu est tiré du mot Tapak qui signifie les pommes et Antu qui signifie fantôme. Il est ainsi nommé parce que dans l'un des rochers de granit existants sur la plage, il y a un droit de trou en forme de semelle de pied droit et la communauté locale le considère comme fait la semelle de fantôme. Cette plage est équipée d'une aire de stationnement, une salle de bain ainsi que certains belvédères qui peuvent être utilisés par les visiteurs. Les militants de voyage dans le village ajoutent également à l'attractivité de la région pour développer un verger. La plage Tapakanto a une belle vue car il y a beaucoup de formations rocheuses de granit géant sur le côté de la plage. Vous pouvez prendre des photos avec l'arrière-plan de ce géant formation rocheuse en granit. Comme la plage en général, sur cette plage, vous pouvez nager et ne devez pas se soucier parce que les vagues étaient assez calmes. Outre se prélasser détendre dans les belvédères, vous pouvez aussi pêcher ou attraper des poissons. Ensuite, vous pouvez graver vos poissons capturés sur la plage. Parce que la plage est également située pas loin du village de pêcheurs et des vents aux enchères de poissons, lors de la visite, n'oubliez pas d'acheter des souvenirs de poissons salés des villageois ou acheter du poisson frais du port. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. À demain! Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur pour ce soir et en pour titre, l'Indonésie a gagné 9 prix de TripAdvisor. Chers auditeurs, l'Indonésie a de nouveau reçu un prix du domaine du tourisme. Cette fois, TripAdvisor, site de revue de voyage aux États-Unis, a fourni des 9 prix à l'Indonésie. Le prix a été décerné par le vice-président de Global Display Sales TripAdvisor, Martin Verdonneroux, au ministre du Tourisme Arif Yahya, juste à la veille de l'inauguration de Pata Travel Mart 2016 à Aïssé Bumi Serpong Damai. Le prix de TripAdvisor Traveler Choice Award comprend 4 catégories, à savoir les destinations touristiques, l'île, les attractions touristiques et de tourisme de plage. La notation des catégories des attractions touristiques et de tourisme de plage est basée sur des avis et opinions des voyageurs pour exposer cet endroit sur TripAdvisor. Pendant ce temps, la catégorie de l'île est une destination touristique est une combinaison de qualité et de quantité de la revue et le niveau des hôtels, des attractions touristiques et restaurants et la tendance de la réservation via TripAdvisor sur l'île ou la destination choisie. Ces 9 prix et au bout qui place le 10e rang de 25 top des destinations dans le monde et le 3e rang de 25 top destinations en Asie, Bali comme 5e rang de 10 top de l'île dans le monde et le 1er rang de top 10 des îles en Asie. En outre, il y a également Lombok qui se classe 5e de top 10 îles en Asie et Gili Trawangan au 5e rang. Ne pas oublier le Tanah Lot au 18e rang et Borobudur au 21e rang en tant que top 25 sites touristiques en Asie et Gilimeno au 11e rang, la plage de Balangan au 17e rang et la plage de Nusa Dua au 24e rang dans la catégorie de top 25 plages en Asie. Deux des 9 prix sont au niveau mondial et les 7 autres sont le niveau asiatique. Chers auditeurs, le prix du TripAdvisor est l'un des prix prestigieux dans le voyage du monde. parce que le site qui a été créé en 2000 est une collection de rêves de voyageurs qui aide à faciliter la diffusion de l'information entre les voyageurs. Les gagnants ont été sélectionnés sur la base des millions de revues et d'opinions formulées par les voyageurs dans le monde entier pendant 12 mois. La sélection de ce prix utilise un algorithme qui compte la qualité et la quantité des revues, du niveau et des évaluations objectives sur chaque catégorie de prix. Donc, tout est calculé juste. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voe.ac.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons un chanteur de dangdut, Imam S. Arifin. Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson intitulée « Ma veuve ». Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.ca.id, et nous vous invitons également à rejoindre La Voix de l'Indonésie sur Facebook, Voice of Indonesia, ou à nous suivre sur Twitter, @voiindonesia. Chers auditeurs, les chansons de dangdut indonésienne est souvent un moyen de transmettre des messages à l'auditeur. Alors que ce n'est pas rare, des chansons de dangdut racontent la vie des gens en général, comme la chanson intitulée « Ma veuve ». Chers auditeurs, écoutons maintenant la chanson suivante. Bonne écoute.
Oh,
Serge-Victor, Imam S. Arifin est un chanteur de dangdut célèbre en Indonésie. Avec le caractère vocal distinctif, il a sorti plusieurs albums et atteindra le succès sur le marché. Serge-Victor, avant de terminer notre programme, voici l'autre chanson d'Imam S. Arifin. Bonne écoute et au revoir.
Yang dan suara hatiku. Tanpa kamu hidup ini tak berarti. Tanpa kamu jiwaku terasa sunyi. Terasa sunyi, bukan bibir ini yang menyatakan cinta, tetapi hatiku yang berbicara tanpa kamu.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs et chers auditeurs, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.